France Musique.
Je savais pas que l'amour c'était une maladie.
It's about 5 o'clock.
En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
You're not Rosebud, are you?
What?
Rosebud. And your name is Jennings, isn't it? Goodbye, everybody.
Is it because her family changed their name from Albrecht? Or do you think it's because all the you girls are bitches?
I guess.
Yeah, I think Paige is the same.
Monsieur, pardon. Vous n'avez rien contre la jeunesse.
Si, moi j'aime bien les vieux.
Itana. Kame ni mo shusse ni mo naran. Nuzukashii iksa ga aru nda wa. Tsuite kuru ka. Hai.
Did you find what you were looking for?
No, with 2 shots in his back, with 1 in his stomach. Nobody important, really.
Cinéma Song par Thierry Jousse.
Aujourd'hui, une soirée avec Rob. Bonsoir. Programme chargé pour ce nouveau numéro de Cinéma Song, avec tout d'abord en plat de résistance une rencontre avec le compositeur Robin Couder, plus connu sous le nom de Rob. Venu de la pop et de l'électro, Rob fait partie des nouveaux dans le monde de la musique de film, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas mis longtemps à y trouver une place de choix. De Rebecca Zlotowski à la récente série Le Bureau des Légendes, en passant par Horns ou Maniac, deux films d'horreur sous la houlette d'Alexandre Aja, ou encore Made in France, le prochain film de Nicolas Boukrieff, Rob a imposé sa sensibilité électro pour une musique hypnotique et habitée. Benoît Basirico viendra ensuite nous rendre visite pour sa chronique mensuelle au micro de Cinésique, où il nous fera découvrir des musiques de Éric Neveu, Martin Wheeler, Alexei Egui ou encore Bruno Coulet. Quant à Charles-Pierre Vallière, il fermera le banc en évoquant dans sa chronique Essentiel BO la bande originale du film Ex Machina, sorti hier dans les salles. Mais en attendant, d'abord un hommage à un immense musicien qui vient de disparaître, le saxophoniste et compositeur Ornette Coleman.
Thank you.
frisson garanti avec ce génial thème de Howard Shore et en soliste de choc ou de luxe Ornette Coleman. C'était en 1991 et c'était la musique du film de David Cronenberg, Naked Lunch, le festin nu d'après évidemment le livre de William Burroughs. Et Howard Shore avait eu cette idée tout à fait lumineuse de demander à Ornette Coleman de venir poser son saxophone sur ses cordes magnifiques. Et d'ailleurs, il y a également des morceaux d'Ornette Coleman lui-même, composés par lui-même dans la bande originale. Donc je ne pouvais pas manquer d'apporter ma petite pierre à l'édifice, si je puis dire, de cet hommage à Ornette Coleman. Alex Dutil en a parlé bien plus longuement que moi et de manière tout à fait remarquable dans Open Jazz il y a quelques heures, mais on pouvait quand même faire un petit écho à Ornette Coleman dans Cinéma Song. Les rapports entre Ornette Coleman, bon, dont on sait qu'il a été, il est connu pour être le fondateur du free jazz, mais en réalité on va s'apercevoir que son apport à l'histoire de la musique est bien plus vaste que ça. En tout cas, c'est un très très grand compositeur lui-même de mélodies très joyeuses souvent et un son de saxophone alto tout à fait extraordinaire. Et ses rapports, je le disais, avec le cinéma sont relativement modestes, puisqu'on y trouve donc cette bande originale de Howard Shore qu'il faut écouter, réécouter inlassablement, qui vraiment fait partie des très grandes musiques de films, en tout cas de ces 40 ou 50 dernières années. Et puis il y a également un documentaire qui a été réalisé au milieu des années 80 par la grande cinéaste Shirley Clarke, plus connue pour ses films dans les années 60 comme The Connection notamment. Elle avait réalisé un documentaire autour d'Ornette Coleman qui s'appelait Ornette Made in America, où on le voyait en chair et en os, notamment dans sa ville natale de Fort Worth au Texas, voilà, avec les expérimentations musicales et également ses expérimentations cinématographiques de Shirley Clarke, qui était vraiment une contemporaine de Ornette Coleman. C'est vraiment le passage crucial de cette fin des années 50 et ce début des années 60 avec la Beat Generation et évidemment le free jazz et le cinéma indépendant américain de Cassavetes ou de Shirley Clarke. Donc chapeau en tout cas à Ornette Coleman, et c'était l'occasion de réécouter cette encore une fois magnifique musique du festin nu. Alors on va passer à quelque chose de complètement différent, qui est la sortie du dernier film de Bruno Podalydès, qui aurait dû faire l'ouverture de cette émission mais qui se retrouve en deuxième position. Le film de Bruno Podalydès qui s'appelle Comme un avion et qui est un de ses meilleurs films pour les amateurs de son cinéma, qui est un cinéma on va dire à la fois très drôle et assez mélancolique. Il faut aller voir ce film qui renoue un peu avec ses premiers films comme Liberté Oléro notamment ou Dieu seul me voit. Et la nouveauté, c'est que Bruno Podalydès, qui en général avait trouvé son double avec son frère Denis Podalydès, et bien là cette fois-ci c'est lui qui joue le rôle. Il joue le rôle d'un rêveur, de quelqu'un qui est supposé être passionné d'aviation et qui va finalement se retrouver dans une espèce d'odyssée très modeste en kayak qui va durer quelques kilomètres, et en fait il va s'arrêter, il va tomber sur une espèce d'oasis dans laquelle il va retrouver notamment Agnès Jaoui et quelques autres personnages. C'est un film absolument délicieux avec beaucoup de musique, mais pas de musique originale, pas mal de Bach. Il y a une scène d'ailleurs très drôle entre les deux frères au début du film, les deux frères Podalydès, où il est question de la prononciation de Bach. Est-ce qu'il faut prononcer Bar ou Bach? Bon, alors c'est un sujet éternel à France Musique d'ailleurs, donc rien que pour ça vous pouvez aller voir le film. Et il y a du Bach d'ailleurs dans le film, ou du Bar, et il y a également du Moustaki à plusieurs reprises, et notamment cette chanson qui était d'ailleurs à l'époque une chanson de film, une chanson qui s'appelle Le Temps de Vivre et qui correspond tout à fait à l'esprit d'abandon, de farniente et de paresse qui règne délicieusement dans ce film.
Prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude. Nous pourrons rêver notre vie. Viens, je suis là, je n'attends que toi. Tout est possible, tout est permis. Viens, écoute ces mots qui vibrent sur les murs du mois de mai. Ils nous disent la certitude que tout peut changer. Un jour, viens, je suis là, je n'attends que toi, tout est possible, tout est permis, nous prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie. Dun, 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 dun.
Le temps de vivre, très belle chanson de Georges II et par Georges Moustaki, qui était à l'origine, donc je le disais, une chanson, la chanson d'un film réalisé par Bernard Paul. On l'a un peu oublié, ça devait être juste après 68, et c'était cette chanson qui, voilà, était le thème principal du film que je me souviens avoir vu il y a bien longtemps et qui peut-être mériterait d'être découvert. En tout cas, c'est une chanson qui figure pour l'instant, cette semaine notamment, et même dans les semaines à venir, dans le film de Bruno Podalides, Comme un avion. On y entend d'ailleurs également une autre chanson de Georges Moustaki qui s'appelle Donne du rhum à ton homme, qui est un peu dans un esprit. C'est vrai que Moustaki évoque un monde où la productivité n'est pas ce qui domine, et ça va parfaitement avec le film de Bruno Podalides, qui je crois fait un peu l'unanimité dans l'ensemble de la critique et des médias, et c'est une bonne chose parce qu'il le mérite vraiment. C'est un cinéaste très très attachant. On l'a reçu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps dans cette émission, je ne dis pas ça pour ça, mais sur Serge Gainsbourg. Mais enfin voilà, donc allez voir Comme un avion et vous écouterez aussi du Moustaki. Un extrait franchement électro d'une musique tirée de la bande originale du Bureau des Légendes, une série qui vient d'être diffusée très récemment sur Canal+, et dont la musique est signée Rob. Rob, c'est de son vrai nom Robin Couder, c'est le personnage central de cette émission de ce soir, Cinéma Song. On va l'entendre parler un peu de sa carrière récente encore, et ça fait à peu près 5 ans qu'il fait de la musique de film. Il s'est déjà imposé voilà comme un personnage qui compte dans le paysage français, et pas seulement français, un petit peu plus que ça même. C'est quelqu'un qui vient vraiment plutôt de la pop et de l'électro, très tôt d'ailleurs, dès son adolescence, et c'est vraiment un peu par hasard, en rencontrant sa femme, qu'il a finalement mis les pieds dans le cinéma, parce que sa femme est réalisatrice, et auparavant on l'avait plutôt vu autour de Sébastien Tellier, ou alors avec surtout le groupe Phoenix, qu'il a beaucoup accompagné dans les concerts. On l'a pas beaucoup entendu dans les disques de Phoenix, mais surtout dans les concerts de Phoenix, et les tournées de Phoenix ont été parfois très très longues. On va le retrouver tout de suite, donc Rob, que j'avais rencontré, il faut le signaler, au Festival d'Aubagne il n'y a pas tellement longtemps, à la fin du mois de mars. Festival d'Aubagne qui, je le rappelle, est le seul festival consacré exclusivement, ou presque exclusivement, à la musique de film. Il faut le noter parce que c'est assez rare, en tout cas en France. Voilà, on va retrouver tout de suite Rob qui nous parle un peu justement de ses débuts dans le cinéma et la musique de film.
Rétrospectivement, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout m'amenait au cinéma sans que je m'en rende compte. C'est-à-dire que la vie, c'est faire des choix bien plus judicieux que ceux qu'on ferait soi-même consciemment. Et en fait, mes premiers émois musicaux ont toujours été liés au cinéma, c'est-à-dire mes émois de l'enfance. Je me rends compte maintenant que mes disques préférés, c'était des musiques de films. Et je me rends compte que c'est toujours à travers le cinéma que je me suis intéressé à la composition, en fait. Mais je ne m'en rendais pas compte. Jusqu'à ce que, tombant amoureux d'une réalisatrice, Maria Larrea, pour ne pas la nommer, jeune étudiante à la FEMIS, petit à petit, je découvre le milieu du cinéma, du jeune cinéma français. Et c'est elle, donc, qui est devenue ma femme entre-temps, qui m'a permis de faire mes premières musiques de court-métrage, puisque j'ai fait deux musiques de court-métrage pour elle. Et puis, très rapidement, j'ai rencontré Rebecca Zlotowski, Teddy Modeste. Et puis, en fait, sans que je m'en rende compte, je me suis retrouvé à faire une musique de long-métrage, vraiment par amitié et très naturellement. C'est une grande joie, évidemment.
Rebecca Zlotowski, vous avez fait ces deux longs-métrages, donc Belle Épine et Grand Central. Comment ça se passe, le travail avec elle, du coup, déjà sur deux films qui constituent, enfin, ça fait déjà une certaine forme de complicité, ou en tout cas quelque chose qui se noue entre un musicien et une cinéaste. Comment vous travaillez concrètement avec elle?
Ce qui a été formidable avec Rebecca, c'est que donc c'était pour elle sa première expérience de long-métrage, et pour moi aussi. Donc déjà, ça nous a soudés en quelque sorte dans l'expérimentation à chaque instant, la découverte de ces supports. Et donc c'était quelque chose, une expérience très forte, qui s'est fait d'ailleurs en parallèle exactement avec le film Jimmy Rivière de Teddy Modeste. Les deux films étaient en parallèle, dont Rebecca était co-scénariste. Donc voilà, tout ça était un petit monde bienveillant. Donc c'était très agréable. Et alors avec Rebecca en particulier, c'est assez intéressant. Elle a une façon, en fait, de travailler un petit peu comme on pourrait travailler, je dirais, de la terre glaise. C'est-à-dire qu'on est en modelage du film et de la musique en permanence. J'ai l'impression que jusqu'au dernier instant, on est toujours en train de raccourcir, allonger, changer de place, épaissir, ou alors, au contraire, complètement déshabiller un morceau. Il y a vraiment un côté, on travaille de la matière vivante jusqu'à la fin. C'est pas du tout comme ça peut se faire par ailleurs, avec une étape de maquette qu'on valide, qui est verrouillée. Ensuite, on passe en enregistrement, il y a l'orchestre, tout ça. Avec Rebecca, c'est vraiment un travail en permanente métamorphose et évolution.
Quelles sont les différences entre les deux films pour vous, entre Belle Épine, qui est peut-être un film plus réaliste, entre guillemets, quoique, et Grand Central, qui est d'une certaine façon plus stylisé, même s'il y a aussi une forme de réalisme dans ce film-là?
Moi, je vois dans les deux films, au contraire, un onirisme, et justement une sorte de distance très subtile avec le réel, où en fait, c'est un petit peu d'ailleurs, moi, comme ça que j'ai l'impression de vivre, où en fait, les situations les plus simples et les plus banales, en fait, peuvent être facilement transposées à travers un regard sensible dans un monde presque mythologique, quoi, où les histoires d'amour, en fait, prennent pour décor une forêt la nuit ou une centrale nucléaire, et où en fait les relations entre les gens sont les mêmes qu'il pourrait y avoir entre des demi-dieux et des hommes. Enfin, jamais en tout cas y penser comme ça. Et pour moi, donc les deux films comme ça travaillent sur ce côté étrange de ce que l'on vit et ce que l'on peut pas expliquer, mais que le cinéma fait très bien par contre.
travaillez, vous, concrètement, je dirais, comment vous choisissez le type de couleur que vous allez utiliser dans un film? D'abord, est-ce que vous intervenez tôt, notamment avec Rebecca Zlotowski, c'est-à-dire en amont un peu du tournage, ou est-ce que ça se fait vraiment dans la période de post-production? Enfin voilà, je voulais un peu savoir. Voilà. Mais c'est surtout la question de la couleur d'un film.
La chance que j'ai avec Rebecca, c'est d'être impliquée vraiment très très tôt dans le processus de création, c'est-à-dire que dès le script, je suis présent, et je crois même pour Belle Épine avoir parlé du film avant même d'avoir lu le script. Donc très vite, en fait, on parle. Ce sont des conversations dans l'abstraction, quoi. Elle me dit pas j'aimerais des violons ou j'aimerais une trompette, mais elle me dit plus j'aimerais quelque chose de violent, quelque chose d'urgent, ou alors au contraire elle voudrait du métal ou du cuir. Voilà, on parle plus sur des sensations en fait que sur vraiment des définitions musicales. C'est d'ailleurs assez agréable, même si parfois ça peut amener à des malentendus, mais qui sont d'ailleurs des malentendus très créatifs, que parfois ça nous surprend tous les deux. En tout cas, ce qui est très agréable avec Rebecca, c'est qu'elle m'emmène systématiquement à des endroits où je n'aurais jamais pensé aller en fait. Justement en me manipulant avec des termes pas forcément adaptés à la musique, je me retrouve, par exemple, comment faire une musique en cuir? C'était le cas pour Belle Épine, c'est intéressant comme notion. Et donc ça m'a amené à faire une sorte de... Moi j'ai une vision un peu rock, années 80, assez proche d'un Johnny Hallyday par exemple. Parce que moi quand elle m'a dit cuir, j'ai pensé à une pochette d'un disque de Johnny qui s'appelle La Peur. Voilà. Bon, ça n'a pas de sens, mais pourtant ça en fait un quand il s'agit de se mettre à composer.
Vous êtes plutôt identifié comme un compositeur électro, on va dire, pour aller vite. Est-ce que c'est une définition qui vous convient, ou est-ce que c'est quelque chose dont vous avez envie d'élargir une palette? Enfin, comment vous vous définissez par rapport à cette question de l'électro, qui est quand même de toute façon un vocabulaire hyper présent dans la musique de film aujourd'hui?
En fait, il me paraît assez évident que quand on me qualifie d'électro, on veut juste signifier le fait que je suis en quelque sorte une nouvelle école dans la musique de film, c'est-à-dire on dit électro par opposition à, on va dire, à ceux qui ont un parcours, on va dire, classique, conservatoire, écriture, grand orchestre, ce genre de choses. Mais en fait, électro, effectivement, ça ne veut rien dire, puisque ça sous-entendrait que la musique est faite par ordinateur. Et ça, je pense que tous les compositeurs aujourd'hui travaillent leur musique par ordinateur. Peut-être juste, ce qui est vrai à mon sujet, c'est que j'aime mélanger, on va dire, une musique dite plus traditionnelle de cinéma, donc qui utilise des éléments acoustiques, donc ça peut être un grand orchestre, ça peut être un quatuor, ça peut être juste une flûte, des percussions, et j'aime mélanger ça à des instruments dits électroniques, donc des synthétiseurs, des séquenceurs, des boîtes à rythme. En fait, c'est, je pense, la chance que j'ai de venir du monde de pop-rock, c'est que je ne vois absolument aucun clivage entre tous les styles musicaux et tous les instruments qu'on peut utiliser. Pour moi, c'est un terrain de jeu infini. Et je ne vois aucun sens à l'idée de s'interdire d'utiliser un synthé sur un grand orchestre. Pour moi, il n'y a aucun blasphème possible. C'est vraiment un champ de recherche infini, quoi.
Thank you.
fait que vous veniez plutôt justement du monde de la pop et donc du coup forcément d'un monde où l'électro aussi est très présent, est-ce que ça signifie pas que les réalisateurs viennent vous chercher aussi pour un certain type de musique qui vous, ça veut dire qu'ils ne vont pas forcément vous demander une musique de grand orchestre parce que vous n'êtes pas identifié comme dans ce genre-là?
En même temps, ma seule nomination au César était pour un film qui s'appelle Populaire. Et c'est le score le plus orchestral que j'ai jamais produit. Donc, je suis pas sûr, en fait. Je sais pas. En fait, je pense que ce que j'essaye de travailler, et j'espère que c'est ce qui se dégage petit à petit des musiques de films que j'ai produites, c'est qu'en fait, je travaille avec mes émotions. Et toujours au service de l'émotion du film. Donc après, c'est peu importe la forme et le format. Pour moi, tous les instruments sont bons à utiliser. Et j'essaye de me battre pour en tout cas être toujours créatif, original et voilà, essayer de travailler pour une œuvre cinématographique, quoi.
Justement, à propos de Populaire, est-ce qu'il y a une différence quand vous travaillez sur un film comme Populaire qui est plus cher, on va dire, et un peu plus produit au sens global du terme, que peut-être certains films de Rebecca Zlotowski ou Tristesse Club ou des films comme ça, qui sont, disons, estampillés davantage auteur? Est-ce que ça change pour vous la méthode de travail, l'approche du film?
En termes d'inspiration, pas du tout, puisque à chaque fois, le problème est le même pour moi, c'est-à-dire trouver l'émotion juste. En revanche, ça change. Dans le cas de Populaire, c'était un exercice de style. Vu qu'on était dans un film d'époque et qui se voulait être un film d'époque, donc qui voulait vraiment être dans la tradition esthétique des films voilà, presque hollywoodiens des années 50, donc il s'agissait de livrer une musique qui soit vraiment dans ce style-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai travaillé en collaboration avec Emmanuel d'Orlando, qui apportait lui son savoir-faire et son érudition en termes d'orchestration pour vraiment donner la couleur qu'il fallait au film. Après, je ne suis pas sûr que le budget d'un film influence réellement ma façon de composer. Ce qui est sûr, c'est que très tôt, quand je connais le budget du film, je sais ce qui sera possible de faire ou non. Donc c'est sûr que je ne vais pas m'amuser à composer pour un orchestre philharmonique quand j'ai 3 copecs pour produire la musique. Mais ça, ce sont des choses très concrètes qu'on intègre sans y penser, en fait. Mais en termes de mélodie et de, je sais pas, d'idées, finalement, puisqu'aujourd'hui, avec les moyens électro, justement, on peut tout produire, on peut tout faire. Même si je n'ai pas d'orchestre sous la main, rien ne m'empêche, si je trouve que la scène en a besoin, de mettre un grand orchestre avec des synthétiseurs qui les émulent parfaitement maintenant, quoi.
Off the Stage, un extrait du score assez orchestral de Populaire, co-composé par Rob
et Emmanuel d'Orlando, Rob, dont on a entendu la voix pour cette première partie d'entretien donc réalisé, je le rappelle, au Festival d'Aubagne il y a quelques semaines, festival qui a lieu chaque année à la fin du mois de mars. Rob, on a entendu sa musique également, un extrait de la bande originale de Tristesse Club, premier film de Vincent Mariette sorti l'an dernier avec toujours une musique de Rob, le morceau s'appelait Triope, et encore avant, un extrait de la musique de Grand Central, Glory, donc toujours composé par Rob, le deuxième long métrage de Rebecca Zlotowski qui avait été présenté à Cannes à Un Certain Regard, qui est sorti à la fin du mois d'août 2013. Donc on est vraiment sur des bandes originales récentes qui n'avaient pas forcément eu l'occasion de passer dans Cinéma Song. Donc c'est tant mieux de rattraper un peu voilà cet oubli, et en présence notamment du compositeur. Alors Robin Couder, alias Rob, on va le retrouver tout de suite. Il va nous parler notamment d'un film qui n'est pas encore sorti et qui sortira sans doute à la rentrée, même s'il semble éprouver quelques difficultés étant donné son sujet. C'est Made in France, le film de Nicolas Boukrieff qui raconte le parcours d'un djihadiste. Donc c'est un sujet absolument brûlant. Le film d'ailleurs éprouve quelques difficultés à trouver son chemin vers les salles, mais il semblerait quand même que voilà les questions de distribution soient réglées après que le premier distributeur ait un petit peu, disons, pris la tangente, eu égard à la supposée dangerosité du film. On est dans une période où l'autocensure va dire bat son plein, mais en tout cas Rob parle de ce film et nous donne envie de le voir et d'entendre cette musique dont on va écouter justement des extraits inédits.
France Musique.
Alors vous avez travaillé sur le dernier film de Nicolas Boukrieff, donc qui est un sujet assez, on va dire, très contemporain et assez sensible, puisqu'il s'agit, si mon souvenir est exact, d'un film où on parle quand même de terrorisme islamiste et voilà de tout ce contexte d'aujourd'hui. Comment ça s'est passé sur ce film-là en particulier ?
Alors, ce qui est très particulier sur ce film, donc, qui s'appelle Made in France, prochain film de Nicolas Boukrieff, c'est que on a commencé à travailler il y a de cela peut-être 8 ou 10 mois, donc en tout cas bien avant les attentats de janvier. Et c'est très étrange de voir sa propre perception d'un sujet évoluer en fonction de l'actualité. C'est la première fois que moi ça m'arrive. Donc quand il m'a présenté le scénario, que j'ai trouvé formidable, c'était donc l'histoire de trois jeunes un petit peu, on va dire, en perte de valeur, et qui donc fréquente une mosquée clandestine et qui petit à petit se laisse embarquer dans le djihad. À l'époque, ça paraissait être un sujet non pas lointain, mais en tout cas fictif, quoi. C'était une fiction. Et puis, il s'est avéré que c'est exactement ce qu'on a vu sur nos écrans et dans la rue après, et qui nous a tous traumatisés. Et donc, le parti pris de départ était de prendre énormément de distance avec le sujet et de s'autoriser, pourquoi pas même, d'aller flirter avec le film de genre. C'est-à-dire aller faire une musique, pourquoi pas de suspense, pourquoi pas presque qui rappelle certaines scènes de Carpenter, puisqu'il y a beaucoup de scènes nocturnes où on voit des jeunes préparer des armes, se monter la tête, quelque part, rentrer dans une folie ensemble. Et donc l'idée c'était d'être, pas hésiter à être assez radical, exagérer ces émotions-là, montrer l'impatience de ces jeunes qui savent pas vraiment quoi foutre de leur temps, et puis tout d'un coup qui trouvent une cause et qui décident de partir dedans à corps perdu. Et puis quand les attentats ont eu lieu, tout d'un coup, mince, je me suis dit, mais est-ce qu'on a le droit en fait de traiter d'un sujet comme ça ? Est-ce qu'on a le droit de prendre de la distance avec l'actualité ? Est-ce qu'on a le droit à un moment où tout le monde est dans une émotion très vive ? Sur ces sujets-là, est-ce qu'on a le droit de dire oui, mais n'oublions pas que c'est quand même des sentiments qui sont peut-être toujours dans l'air du temps, ou... C'était assez difficile, en fait. Et je pense que le choix de Nicolas, et qui est très bon, a été de tenir cette ligne artistique jusqu'au bout, de traiter avec une certaine pudeur et une certaine retenue, c'est-à-dire qu'il n'est évidemment pas question à aucun moment de dire ou de comprendre ce comportement ou de dire oui, mais en fait c'est normal, parce que ces jeunes, on s'en occupe pas, donc ils tournent mal. C'est pas du tout le propos, mais c'est juste de dire... Quel mécanisme fou fait qu'on arrive à des débordements pareils, et qu'est-ce qui peut bien se passer dans le cœur et dans la tête d'un jeune pour se retrouver à tirer sur un flic, quoi. Quelle est la folie qui peut s'emparer de lui. Donc ça, on a réussi à le tenir jusqu'au bout, et je suis vraiment fier du résultat, parce que je pense qu'on arrive à avoir quelque chose d'extrêmement brûlant, d'extrêmement sensible, et je crois pas qu'on trahisse le bon sens, ni l'humanité qu'il faut avoir dans ces moments-là, quoi.
Mais concrètement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de musique dans le film. Elle a un rôle très, très important.
Il y a énormément de musique dans le film. sans qu'on se le soit dit auparavant, c'est-à-dire que c'est vraiment en le faisant qu'on s'en est rendu compte. Je crois que c'est le film français pour lequel j'ai le plus composé finalement. Il me semble qu'il y a 1h15 de musique dans le film, ce qui est énorme sur un film d'1h30 évidemment, même si c'est pour ça que je parlais de films de genre, c'est-à-dire que comme dans les films de genre, la musique est presque tout le temps présente, mais avec énormément de ce qu'on appelle underscore, c'est-à-dire énormément de moments où la musique se place totalement derrière la scène, et juste là, comme une intention de mise en scène, comme un éclairage par exemple, comme quand Dario Argento va mettre du bleu et du rouge, bah nous on a mis d'ailleurs du bleu et du rouge, puisque Nicolas Boukrieff je pense est assez fan de ça, mais on a mis aussi une nappe de synthé, on a mis une petite rythmique de boîte à rythme, on a mis une mélodie, on a mis... Donc il y a quelque part un habillage sonore permanent qui plonge dans une sorte de rêverie malsaine, je dirais, qui ne fait qu'empirer au fur et à mesure du film.
Vos rêves, vos aspirations en matière de musique de film aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des cinéastes avec qui vous souhaiteriez travailler, est-ce que vous auriez envie de travailler aux États-Unis, est-ce que voilà, comment vous voyez la suite des événements?
Bah, en fait, moi je me considère encore comme un jeune novice dans ce milieu, puisque ça fait, je crois, à peine 5 ans que je travaille pour le cinéma. Et en fait, chaque nouveau film, bon, c'est un petit peu gros de dire ça, mais chaque nouveau film est un rêve au sens où, comme je suis à mes débuts, chaque nouveau film est une nouvelle expérience, tout à fait nouvelle, tout à fait fraîche dans l'expérimentation. Et en fait, j'arrive à chaque fois à assouvir des fantasmes de création. Alors, j'ai découvert le travail avec l'orchestre, avec Populaire, et puis après, je l'ai prolongé avec Rock de Casbah ou Horns pour Alexandre Aja. Donc c'était tout nouveau pour moi, par exemple. Donc ça aurait pu être un rêve, ben voilà, ça y est, ce rêve est réalisé. Travailler avec les États-Unis et donc découvrir aussi ce que c'est que les moyens de production et tout ça là-bas, ça y est, j'ai commencé à le faire aussi. Ou travailler pour des films d'horreur, ce qui est un rêve pour moi en tant que compositeur, parce qu'on nous demande une musique radicale, une musique volontairement, exagérément présente et torturée, tout ça. Pour moi, c'était un rêve d'expression. Et ben voilà, là, je viens de finir Amityville, par exemple, pour Frankelfoon, avec qui j'avais fait Maniac auparavant. Donc, jusque-là, je me réjouis. Et je m'éclate totalement, en fait. Chaque projet m'amène son lot de découvertes, d'expérimentations, de nouveautés. C'est fantastique. Je dois souligner le fait que, donc, venant de la pop et, on va dire, d'une carrière de type discographie classique en pop musique, j'ai trouvé dans le cinéma, en fait, tellement de liberté, tellement d'ambition, tellement d'exigence en termes d'originalité, que c'est vraiment un bain de jouvence pour moi. C'est vraiment formidable.
Paradoxal que vous prononciez le mot de liberté, parce qu'on pourrait se dire que le cinéma, c'est quand même un art de la contrainte, où il faut travailler pour un objet qui n'est pas le sien, et où il faut être quand même assez cadré avec un minutage, enfin voilà, toutes les contraintes qu'on peut avoir. Et du coup, visiblement, cette contrainte vous donne de la liberté d'une certaine manière.
Pardonnez la bassesse de cette réflexion, hein, qui est proche d'une réflexion de Bachelier, mais c'est évidemment dans la contrainte qu'on s'exprime le mieux, quoi. C'est-à-dire que grâce au cinéma, il n'y a presque jamais de peur de la page blanche, quoi. Il y a toujours il y a un sujet, il y a des directions, il y a une collaboration avec un producteur, avec un réalisateur, avec un chef opérateur. Donc quelque part, je me retrouve très bien dans ce travail d'équipe, même si au moment de composer, je suis seul dans mon studio, mais je fais partie d'un tout et j'œuvre pour une œuvre qui n'est pas la mienne. Et ça, je trouve que c'est très agréable, et ça, pour moi, ça me procure un sentiment de liberté. En pop musique, on va toujours attendre de vous que vous vendiez des disques. C'est une considération qui n'est absolument pas artistique. Au cinéma, évidemment qu'on espère faire des entrées, mais ce n'est pas à la musique qu'on demande ça. La musique sert juste à sublimer le film, quoi, l'image. Et donc ça, c'est une considération artistique.
Dole, un extrait légèrement carpenterien, c'est-à-dire proche de John Carpenter, de la bande originale de Maniac, le film de Frank Calhoun, produit par Alexandre Aja. C'était donc un morceau composé par Rob, qui est notre personnage central pour cette soirée Cinéma Song. Auparavant, en dehors de l'entretien qu'on a entendu avec Rob, un extrait de la bande originale de Horns, donc un film de Alexandre Aja réalisé l'an dernier, un extrait qui s'appelait Caddy, et auparavant, Rob a le sens de la brièveté des titres pour ces morceaux. Boulette, extrait de la bande originale donc de Made in France, le film de Nicolas Boukrieff que Rob évoquait plus longuement à mon micro et à celui de Bruno Rioux-Maillard. Voilà ce film de Nicolas Boukrieff, donc on a un peu une idée de ce que ça peut être, un film de genre sur un sujet extrêmement sérieux. On a hâte de le voir en tout cas, et on peut espérer le voir avant la fin de cette année 2015. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. On va retrouver Robin Couder alias Rob donc pour une dernière salve de questions-réponses, où il va être question notamment des liens entre son travail pour la pop et son travail pour le cinéma, et puis également de ses influences musicales et cinéphiliques qui sont assez nombreuses et assez variées, qui ne vous surprendront peut-être pas quand il s'agira notamment de Giorgio Moroder, mais il n'y a pas que Giorgio Moroder. Pop de l'autre, ou est-ce que c'est vraiment une sorte de schizophrénie, on va dire, active ?
Non, pas du tout. En fait, le lien est presque dans mes influences, c'est-à-dire que dans ma tête, je ne fais aucune différence entre, comme Giorgio Moroder, par exemple, quand il produit Donna Summer, ou quand il produit la musique de Midnight Express, c'est le même artiste, c'est la même œuvre. Moi, je m'inspire de ce genre de carrière. Pour moi, c'est exactement comme ça qu'il faut considérer la chose. Je pense que le cinéma, en plus, a besoin du sentiment qu'on a quand on écoute un morceau formidable de pop music. On a besoin d'être emporté. On aime posséder un morceau, quoi. Et c'est vrai que quand on a ça en plus au cinéma, alors attention, il ne faut pas non plus que la musique déborde et dégueule sur le film, puisque là, on fait mal son travail. Mais quand on arrive à subtilement allier tous ces sentiments-là, on atteint des moments de création, c'est magnifique, quoi. C'est le 7e art, quoi.
Qu'est-ce qui vous inspire plus particulièrement sur un film ? Alors, mais vous allez me dire, ça dépend des films, mais est-ce que c'est voilà des personnages, des acteurs, des lumières, je ne sais pas, un rythme ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous... Ou carrément le sujet, ou un scénario, enfin, ou le dialogue simplement avec le réalisateur qui se suffit à lui-même, je ne sais pas comment... Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus déterminant qu'autre chose ?
Il y a différentes étapes dans le travail, quoi. La première étape où on cherche l'inspiration, où donc on va juste simplement essayer de trouver la couleur juste. Parfois, c'est juste l'instrument qu'il faut ou le thème. Ça, c'est la première étape. Alors là, évidemment, on va s'inspirer, on va en quelque sorte fantasmer le film comme on se l'imagine. On va dire, bah, si c'est une histoire d'amour, bah, on va avoir envie d'avoir un moment où peut-être où il se déchire. Alors, est-ce qu'on va avoir envie que ce soit une histoire d'amour heureuse, malheureuse ? Est-ce qu'on va avoir envie de montrer ce qu'il y a dans la tête des protagonistes ? Ou au contraire, par exemple, dans Grand Central, c'est intéressant de se dire que assez souvent, la musique n'est pas du point de vue ni de Léa Seydoux ni de Tahar Rahim, mais elle est parfois le point de vue de la centrale nucléaire. Ça, c'est quelque chose d'inattendu, et c'est quelque chose, je pense, qui crée, qui fait la force de la musique de ce film. C'est parfois, ça crée une sorte de troisième dimension à la narration, en fait. C'est quelque chose qu'on n'attend pas, qui n'est pas dans le scénario, qui n'est presque pas dans ce qu'on voit. Et c'est ça qui est génial avec la musique de film. C'est quand on arrive à amener cette dimension supplémentaire, hein, qui peut être amenée par rien d'autre que par la musique. Ça c'est le cas ici, ils appellent ça le troisième personnage. Je pense que ça peut exister, c'est pas forcément systématiquement quelque chose qu'il faut rechercher dans un film, parce que parfois on a besoin juste de suivre une narration et c'est pas plus mal, mais c'est vrai qu'il y a parfois des cas de figure où on touche à quelque chose d'assez mystique, quoi, en termes de création, vraiment qui est de l'ordre de l'abstraction et de la uber-narration, je ne sais pas comment dire. Mais c'est des moments assez délicieux. Et alors après, il y a le travail, quand on travaille vraiment à l'image. Et alors là, effectivement, on travaille en étroite collaboration avec le monteur. Et là, il s'agit de trouver le rythme juste, trouver les bonnes longueurs, trouver les silences, parce que ça, c'est évidemment très important dans la musique d'un film. C'est savoir à quel moment on doit se taire. Tout ça, c'est vraiment un travail qu'on fait vraiment sur le terrain, et c'est génial, quoi.
Vous avez prononcé quelques noms pendant le reste de l'entretien, Giorgio Moroder, Dario Argento, John Carpenter. Est-ce que ça constitue, voilà, ces noms constituent votre cinéphilie musicale ou pas seulement musicale d'ailleurs, mais votre cinéphilie tout court?
Bah, complètement. En fait, là, je donne de l'eau au moulin de ceux qui me qualifient d'électro, puisque ce sont, là, je n'ai cité que des compositeurs qui ont fait une musique dite électro, quoi. J'aurais pu citer aussi Tangerine Dream, j'aurais pu citer Popol Vuh, qui sont tous mes maîtres. C'est vrai, moi j'ai une culture, une cinéphilie très, on va dire, de cinéma de genre, 70s, voilà, c'est quelque chose qui me parle énormément, même si rien ne m'émeut plus que la musique des deux Anglaises et le continent, de Georges Delerue, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu de sensibilité, d'émotion. Je pourrais citer aussi Komeda, et la musique de Rosemary's Baby ou du Bal des Vampires, qui sont pour moi, là, pour le coup, des traumatismes d'enfance qui m'ont vraiment amené à aimer la musique de film. Encore une fois, je trouve que ce soit Komeda ou Delerue ou Moroder, ce sont à chaque fois des compositeurs qui arrivent à intégrer la notion de thème, de mélodie, et qui ont quelque chose de très pop pour moi. Même s'il y a de l'orchestration, même si parfois il y a des grandes plages vides, en tout cas un petit peu, on va dire, des nappes ou je sais pas, des absences, à chaque fois ils arrivent à trouver un thème fort, ils arrivent à, il y a toujours le thème du film, quoi. Moroder est très fort pour ça, Midnight Express c'est un chef-d'œuvre du genre, quoi. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément, c'est sans doute mon background pop qui m'amène vers ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme maître? Évidemment, Morricone. Ça, mais je ne connais pas un seul compositeur de musique de film qui ne puisse pas le citer. C'est d'ailleurs génial d'avoir une sorte de stèle monolithique comme ça. On se dit, voilà, bon, je sais qu'il y a Morricone, voilà. Si j'ai un moment de doute, j'ai qu'à aller m'y référer, et voilà. Et en plus, c'est un exemple aussi de collaboration. On se dit, voilà, Morricone, Sergio Leone, voilà, c'est comme ça qu'on aimerait que ça soit à chaque fois, quoi. Même si je pense que les dessous des cartes ne sont pas forcément ceux qu'on imagine. Voilà, ce sont des stèles voilà, immuables pour moi, quoi. Mais même les partitions un petit peu différentes de Morricone, quoi. Moi, je sais qu'enfant, la musique de Mission... m'a totalement bouleversé et je pense que c'est une citation que je fais régulièrement sans m'en rendre compte dans ma musique, quoi. Voilà.
Cinéma, disons vraiment contemporain, est-ce qu'il y a des gens avec qui vous sentez une sorte d'affinité possible ou voilà, des gens avec qui vous auriez envie de dialoguer dans la musique de film, là pas forcément en France mais en général?
Bah en fait, moi ce que j'aime beaucoup c'est le sentiment d'appartenir à une génération. C'est pour ça que j'hésite pas à participer à des premiers films. J'aime beaucoup l'idée que de faire partie d'une émergence, quoi. J'aime beaucoup l'idée qu'on tous ensemble, en se donnant la main, je plaisante, mais presque pas, on arrive à changer un petit peu, petit à petit, à trouver d'autres codes, à réinventer, à se servir de ce qu'on aime pour créer quelque chose de nouveau. Après, je suis évidemment admiratif de ce que fait Desplat sur les films de Wes Anderson, parce que c'est justement extrêmement créatif et parce que pour moi c'est l'héritier de Cosma. Donc quand il fait ça, là je suis content, je me dis ça c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Je pensais ne pas du tout aimer Hans Zimmer, parce que je pense que je vivais dans les clichés de ces modes de production qui sont un petit peu condamnables peut-être, parce que nous d'ici ça nous paraît être industriel, alors qu'en fait nous on aime l'artisanat. Et pourtant, quand j'ai été voir Interstellar, j'étais époustouflé, quoi. J'ai trouvé que c'était magnifique, c'était grandiose, et que c'était exactement comme on s'imagine que la musique de 2001 a été aussi, quoi. C'est-à-dire absolument cosmique. Donc ça, c'est génial, et je suis très admiratif de ça. Je suis admiratif aussi chez Hans Zimmer. Ça me donne quelque part l'image de qu'est-ce qu'on peut faire quand on a les moyens illimités. À quoi peut ressembler une musique de film quand on peut faire ce qu'on veut. Et ça, quelque part, ça m'inspire, parce que avec mes moyens qui sont, moi, bien plus humbles, j'aime l'idée de me projeter dans quelque chose d'infini, quoi. Il faut avoir une ambition, de se dire non, mais évidemment qu'on ne veut pas ressentir le budget d'une musique de film quand on l'écoute. Et donc ça m'inspire d'écouter Interstellar et de me dire si j'ai besoin d'un orgue, eh bien je peux enregistrer un orgue dans la plus grande église du monde, et comme si je jouais dans l'espace, quoi. Ça, c'est quelque chose d'inspirant pour moi aussi. Et il y a aussi une influence là que j'ai pas encore citée et qui est assez intéressante, parce que je trouve qu'elle est extrêmement générationnelle. Donc moi je suis né en 1978 et en fait j'ai grandi comme toute ma génération avec la télévision et les dessins animés, et notamment les dessins animés japonais. Et je pense que on oublie souvent de citer par exemple Shuki Levy, qui est le compositeur des Cités d'or, par exemple, qui est une musique de film qui a, pour en avoir parlé avec mes congénères, qui nous a beaucoup marqué. Je sais que Sébastien Tellier ou Phoenix, on est inconsciemment à la recherche des sons qui nous ont émus dans cette enfance. C'est pour ça aussi qu'on intègre autant de synthétiseurs et qu'il y a ce côté 80s dans notre musique. Je pense que c'est plus lié à la musique des dessins animés de notre enfance qu'à un amour de la musique disco, par exemple. Moi, quand je réécoute les Cités d'or, c'est fou comme les accords me parlent énormément. En fait, c'est un phénomène très simple, de juste rechercher les émotions inconscientes de son enfance. Mais c'est intéressant de voir qu'elles sont pas forcément là où on les attend, et pas forcément dans une musique dite noble, puisque je pense que Shuki Levy n'est pas très bien considéré parmi les compositeurs. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il existe encore. Il ne parle plus. J'imagine qu'il est producteur de je ne sais quoi à Los Angeles. Mais voilà, je tiens à citer aussi cette musique-là, que je ne renie pas du tout, bien au contraire. We'll be right back.
Le son nucléaire, un extrait de la bande originale de Grand Central, le deuxième long métrage de Rebecca Zlotowski, et jusqu'à nouvel ordre le dernier, mais il y en aura sans doute d'autres dans les années qui viennent. Et c'est un film donc sorti en 2013 après sa présentation à Cannes, et une des BO marquantes de Rob, qui est moins électro que la plupart de celles qu'on a pu entendre, comme celle justement par exemple du Bureau des légendes, la série, donc l'extrait donc de la BO du Bureau des légendes, la série conçue par Éric Rochant et diffusée récemment sur Canal+, qui est vraiment une très bonne série. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de la regarder presque en entier, et ça fait partie des très bonnes séries françaises. Il commence à y en avoir pas mal, un peu comme les Revenants par exemple, avec la musique de Mogwai, ou certaines séries de France 3 comme Les Envoûtés, avec des musiques de Éric de Marsan. Donc il y a des bonnes musiques dans des bonnes séries en France, ça change. Et auparavant encore, un deuxième extrait de la musique de Made in France, le nouveau film de Nicolas Boukrieff, que je l'espère nous verrons donc avant la fin de cette année. C'en est terminé donc de cet entretien avec Rob, réalisé, je le rappelle, au Festival d'Aubagne, au dernier Festival d'Aubagne, où j'avais rencontré également les frères Galperine, Sacha et Evgeny Galperine, et ça donnera lieu à une émission dans 2 semaines. Voilà, c'est dans un univers très très différent de celui de Rob, et des films encore tout à fait différents, mais ce sera justement l'occasion de revenir sur cette nouvelle génération de compositeurs qui émerge comme ça peu à peu depuis quelques années, et il faut que la musique de film se renouvelle, bien évidemment. Benoît Basirico est rentré dans le studio pour m'accompagner pour sa chronique au micro de Cinésic. Vous étiez aussi à Aubagne d'ailleurs,
il y a
quelques semaines, enfin c'était pendant la grève de Radio France, voilà. Et je vais vous laisser la parole pour vous allez nous parler de compositeurs français, mais qui sont pour la plupart quand même assez différents de ce que fait Rob.
En effet. Rebonsoir à tous. La chronique au micro de Cinésic a sélectionné pour vous 5 BO de juin avec 5 compositeurs à découvrir dans les salles de cinéma. Éric Neveu, Alexis Egui, Martin Wheeler et Bruno Coulet. Cette dernière chronique de la saison est sous le signe de la diversité culturelle du voyage, idéal à l'approche de l'été. Commençons par 2 musiques signées Éric Neveu, compositeur français très actif, au pupitre aussi bien de comédies populaires, Les Vacances du Petit Nicolas, Le Grand Méchant Loup, Les Gazelles, que de films dits d'auteurs, Un Beau Dimanche, La Vie Domestique ou La Tête Haute qui a fait l'ouverture du dernier festival de Cannes. Il est à l'affiche ce mois-ci de Graziella et Une Mère. Il s'agit pour lui de 2 premières collaborations, avec Mehdi Chareff pour l'un, avec Christine Carrière pour le second. Ce sont 2 films intimistes. Ces films sont pour ce compositeur habitué de films plus denses, 2 moments de respiration. Éric Neveu aime travailler sur de grosses machines qui lui permettent d'avoir un grand orchestre, mais aussi sur ce type de films intimistes qui lui permettent de convoquer une seule guitare solo. Cet instrument n'est pas une nouveauté pour Éric Neveu, puisqu'il était au cœur de Persécution de Patrice Chéreau. Graziella de Mehdi Chareff, sorti le 3 juin, avec Rossi de Palma et Denis Lavant, propose une partition pour guitare, contrebasse et accordéon. Il y a un petit air hispanique qui nous fait voyager au pays du flamenco, à l'image de ce thème utilisé en générique de fin. Thank you. On vient d'écouter la seconde musique du mois, signée Éric Neveu, avec des guitares, tout comme dans Graziella entendu juste avant, mais un peu plus rock, pour Une mère de Christine Carrière. Ce film qui sort le 24 juin prochain avec Mathilde Seigné dans le rôle titre nous transporte dans le Nord et en Haute-Normandie. Après l'Espagne et le Nord, évadons-nous vers la Russie, plus exactement dans une ferme isolée des steppes kazakhs, décor du film Le Souffle en salle cette semaine. Le compositeur russe Alexis Egy, entendu chez Pascal Bonitzer, travaille ici avec son compatriote, le réalisateur Alexander Kott. Les voix utilisées dans sa partition nous font voyager. Instant, Le Souffle, musique d'Alexis Egy. Le film est actuellement dans les salles. La diversité est le sujet du documentaire La ligne de couleur, réalisé par Laurence Petit-Jouvet, à l'affiche le 17 juin. Toutes les couleurs de peau y sont invitées, des hommes et des femmes français de culture française parlent de leur expérience de non-blanc. Le compositeur Martin Wheeler, qui a remporté un César en 2014 avec Michael Colas, et était à Cannes pour Je suis un soldat, y dévoile une palette plus synthétique de son talent. Nous entendons La ligne de couleur, musique de Martin Wheeler, pour le documentaire actuellement dans les salles prochainement le 17 juin. Enfin, en salle le 24 juin, Mazan de Neeraj Gaywan, film indien qui était à un certain regard au dernier festival de Cannes, marque la rencontre entre le réalisateur indien et le compositeur français bien connu Bruno Coulet. Avec ce premier film, le compositeur sort des habitations du journal d'une femme de chambre ou du château de Versailles des adieux à la reine pour se déraciner à Bénarès, dans la cité sainte au bord du Gange, autre véhicule d'un dépaysement garanti. Cette dernière chronique au micro de Cinésique était donc sous le signe du voyage et c'était à l'instant le voyage de Bruno Coulet en Inde pour Mazan.
Merci beaucoup Benoît pour cette chronique au micro de Cinésique. Vous allez être suivi donc par une autre chronique, une fois n'est pas coutume. Voilà, vous enchaînez si je puis dire Charles-Pierre et Benoît. Et merci Benoît en tout cas pour cette chronique. Et donc on passe maintenant à Essentiel BO, chronique de Charles-Pierre Vallière. Je le rappelle, bonsoir Charles-Pierre.
Bonsoir Thierry, bonsoir Benoît.
Bonsoir.
Dites, oh, tu aimes ça la musique?
La musique? Ah oui, j'aime ça, surtout après un bon déjeuner.
Bonsoir à toutes et à tous, oui, Thierry, alors ce que nous entendons c'est un extrait de la bande originale du film de science-fiction Ex Machina qui est sorti sur les écrans la semaine dernière. Alors c'est un premier film pour le réalisateur britannique Alex Garland qui s'était davantage en fait illustré en tant que scénariste hein, pour le réalisateur Danny Boyle justement, hein, c'est lui à qui l'on devait justement les scénarios de 28 jours plus tard en 2002 ou encore Sunshine en 2007. Et donc Garland signe vraiment un excellent film de science-fiction qui n'est pas réalisé avec un budget pharaonique comme c'est le cas souvent pour les productions américaines. Là, c'est une production britannique avec de vraies questions de science-fiction sur l'intelligence artificielle et justement la nature humaine, puisque l'histoire de Ex Machina est celle d'un jeune programmeur informatique qui est embauché en fait par le créateur de robots humanoïdes qui est interprété par Oscar Isaac dans le film pour justement eh bien déterminer si l'intelligence artificielle de ces robots eh bien est vraiment celle d'un raisonnement humain ou non. Et donc la bande originale de Ex Machina a été confiée à deux compositeurs, alors Geoff Barrow et Ben Salisbury. Geoff Barrow, vous le connaissez sans doute puisque c'est lui qu'on doit le groupe Portishead, en tout cas c'est un des cofondateurs avec Bess Gibbons du groupe Portishead. Pour tous ceux qui ont écouté de la musique de Portishead dans les années 90, ça laisse des souvenirs.
Ils sont nombreux.
Et donc la bande originale de Ex Machina, alors comme vous pouvez l'entendre, elle ne ressemble pas vraiment à la musique de Portishead, parce qu'il y a justement la présence du compositeur Ben Salisbury, qui lui est un compositeur beaucoup plus classique de formation, hein, et qui a composé des bandes originales. Il est passé par le conservatoire, il a fait des documentaires pour la BBC. Donc en fait la collaboration de Barrow et de Salisbury donne un très bon résultat. Justement, ce n'est pas chacun dans son coin qui a composé et puis on remet le tout, ça donne une BO. Non, justement, il y a une véritable homogénéité musicale dans cette bande originale à dominante alors de musique planante, ambiante, atmosphérique. Sont surtout des sonorités de synthé qui sont utilisées. Alors rien évidemment n'est plus efficace qu'une musique de synthétiseur pour la science-fiction et justement à évoquer ces humanoïdes. Il y a également des accompagnements de guitare assez entêtants. Et puis, il y a des passages justement de musique qui fonctionnent beaucoup plus comme un thriller. C'est vrai qu'il y a des moments très inquiétants dans ce film. Et il y a une vraie musique stressante. Si on doit en fait rapprocher un peu cette bande originale d'autres bandes originales du même genre, eh bien, ce serait un peu celle d'Arcade Fire pour Her, dont on avait parlé l'année dernière, ou encore ben, justement celle de Sunshine de John Murphy. extrait de la bande originale composée par Geoff Burrow et Ben Salisbury pour le film Ex Machina. Donc dans Ex Machina, il y a un jeu intéressant, hein, vraiment entre la bande originale du film et les musiques que les personnages entendent aussi dans le film, hein, comme les spectateurs. En fait, les musiques atmosphériques de la bande originale sont souvent placées pour combler en fait une sorte de vide émotionnel, hein, de l'intelligence artificielle. Et de l'autre côté, eh bien, il y a les musiques que les personnages entendent qui, elles, eh bien, sont souvent d'ailleurs des musiques préexistantes, utilisées de façon en fait à, d'une certaine manière, à tester cette intelligence artificielle et nous tester aussi en tant que spectateurs, êtres humains, devant le film. Pour le réalisateur, en fait, l'art est l'activité humaine par excellence. Un ordinateur n'a pas besoin de peindre, il n'a pas besoin de jouer de la musique. Et c'est une réflexion en fait qui donne lieu dans Ex Machina à une scène tout à fait étonnante, une des meilleures scènes de danse en fait de la SF. Il faut dire qu'on n'en trouve pas souvent, hein, aussi Thierry, hein, des scènes de danse dans la science-fiction. Et donc en fait pour Alex Garland,
par la danse des vaisseaux spatiaux dans 2001 Odyssée d'espace.
Mais c'est
une scène de danse. Enfin bon,
c'est pas tout à fait la même. Mais c'est vrai qu'on pourrait, on peut quand même la citer, c'est vrai. Bon, bah, là, ce sont des êtres humains, hein, qui dansent, hein, quand même. Et donc le problème pour le sujet, vraiment pour Alex Garland, le problème n'est pas de danser en fait pour une intelligence artificielle. Elle peut danser quand on le lui demande. Le problème, c'est d'en avoir envie, d'être irrésistiblement attiré comme un être humain par cette envie que nous procure la musique de danser. Et c'est justement cette envie de danser qui est donnée dans ce film par la chanson Get Down Saturday Night, qui a été composée, enfin qui est interprétée par Oliver Cheatham. Oliver Cheatham, j'ai pas résisté, hein, pendant le film, j'avais très envie de danser, Thierry, évidemment.
Et pourtant, vous n'êtes pas une intelligence artificielle.
Et pourtant, je ne suis pas une intelligence artificielle. Et justement, ça donne vraiment lieu à une scène mythique, alors brève mais mythique à mon avis déjà, où il y a Oscar Isaac et Sonoya Mitsuno qui dansent. C'est vraiment irrésistible. Malheureusement, hein, la musique n'est pas présente, hein, d'Oliver Cheatham dans la BO, mais néanmoins, c'est une BO qui est disponible. Alors depuis janvier en numérique, et puis qui va sortir chez Invada Records, qui est le label de Geoff Barrow, à partir de juillet. Donc on pourra s'en procurer aussi en physique.
Bonne nouvelle, le physique c'est toujours bien aussi pour les disques, notamment. Bon, merci Charles-Pierre et merci Benoît donc pour vos chroniques. On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine pour une émission qui sera très différente puisqu'elle sera consacrée à Paul Mizrahi, un compositeur d'une autre génération, de ce dont on a parlé ce soir. Dorothée Gol m'avait aidé à préparer cette émission. J'étais en compagnie d'Emmanuel Rose, de Victor Buton. Bien sûr, Xavier Atto avait œuvré et tuilé pour cette émission. Et l'excellent Bruno Rioux-Maillard l'avait réalisé, cette émission Cinéma Song.